They say I'm different. They can go the keys and I leave them. And they gotta say what I wish for, but it's too late. With the fall, we the best now, we the GOAT.
Hey yo, bienvenue dans le podcast The GOAT MMA Boxing. J'espère que vous allez bien les GOAT, que vous portez bien, quel que soit le moment où vous regardez ce podcast. Aujourd'hui, en compagnie de Karl, comment ça va ?
Ça va toujours bien, toujours un plaisir de se retrouver dans le canapé de Nassim. Hein. Let's go les gars.
Nassim, justement, comment ça va ?
Ah nickel, fatigué mais bien, tu vois.
Et oui, fatigué parce qu'il a charbonné ce week-end. Il nous a sauvé l'insider favori de The GOAT. Là, tu étais justement au KSW.
Yes.
93 ou je sais
93,
plus. 93 exactement, ouais. C'est ça. Adidas Arena, gros event. On va parler justement de la grosse soirée et surtout de la performance XXL de Salah Gimparnas. Mais avant ça, on va demander à notre insider qui était sur place comment ça s'est passé, quelles étaient les énergies, l'organisation. Est-ce que tu as bien été accueilli? Comment ça s'est passé?
Écoute, si le KSW était une femme, je serais tombé amoureux hier soir. C'était franchement, j'ai kiffé, j'ai apprécié de fou. Je vais te dire, je te l'ai dit tout à l'heure en off, j'en ai fait des orgas à droite, à gauche, en inside. Et le KSW hier, ça m'a mis une claque parce que c'est une orga, mais phénoménale. Tu es respecté quand tu es un fighter, quand tu vas en tant que média, le public pareil, c'était un truc de malade. Tu vois, ceux qui ont payé leur place, je pense qu'ils en ont eu pour leur argent. Bravo à vous, c'était un bel investissement hier.
Oui, c'est intéressant ce qu'il dit là, parce que de l'extérieur, on ne voit pas forcément ça. Mais nous, on voyait de loin ce qu'ils faisaient, les gros events qu'ils faisaient en Pologne.
Oh, ils ont tout tué. Mais je pense, là, je te dis, hein, si on réussit à hyper le KSW en France et qu'ils font leur show à Bercy, ils font mieux que tous les autres.
Mm.
Je te le dis, franchement, leur show hier, c'était phénoménal. Jeu de lumière, le speaker... Quand tu l'entends en face de toi, le Saladin Parnas, là, tu dis, purée, il a une aura, le mec.
Ouais.
Tout de A à Z, c'était carré, franchement. C'était top.
C'était fort.
Franchement, c'était fort.
Des belles performances, hein, de nos Français.
Ouais.
Français et Françaises.
Ouais. Très belle performance.
Très belle performance. Moi, j'aimerais qu'on parle, justement, parce qu'on ne va pas vraiment peut-être passer sur toute la carte. Et je vais direct aller droit au but. On va directement aller, je pense, là où les gens veulent écouter. On va. Nalaïd, il y a eu de très bons combattants.
Nalaïd, Wilson, Eladj, Alphand.
Exactement.
Flore, Annie.
Exactement. Qui... C'était de très belles performances. Mais ça là. Après, ce qui... moi, personnellement, j'étais bouche bée. J'y m'y attendais. Je ne vais pas donner mon analyse parce que je l'ai déjà donné. Dans... Allez voir la vidéo de Pugy qui s'affichera juste là. J'ai fait vraiment une analyse sur le retour. On y va un peu fort, donc les gars, il faut s'accrocher. Mais pour le coup, moi, j'aimerais avoir votre avis sur la performance de Saladin. Et surtout, où est-ce que vous le classez? Peut-être, Karl, on va commencer par toi. Parmi les combattants français, ensuite, j'aimerais avoir ton avis. Aujourd'hui, parmi les combattants français, où est-ce que vous le classez, Saladin, après cette performance-là? Et quel est ton ressenti après cette performance?
Déjà, par rapport à la performance d'hier, alors, pas étonné, pas choqué, pas surpris. Par contre, il revient quand même d'une défaite. Donc, mentalement, c'est moins simple que d'être sur des victoires. Donc, déjà, ça, c'est bien. Il a pu confirmer qu'il avait un bon mental. Il est à Paris, à domicile. Peut-être que ça rajoute une petite pression supplémentaire. Ça faisait 7 ans qu'il n'avait pas combattu chez lui en France. Donc, à noter aussi. Voilà, il a juste prouvé que c'était un combattant complet, que ce soit point, que ce soit défense de lutte, défense de grappling. Là, jambe, donc il envoie une jambe high kick, il lui fait une croc-up, il le tape sur le côté de la tête, c'est assez pour que quand le tibia il cogne à cette vitesse sur le crâne, c'est mort. C'est, voilà. Donc voilà, juste il a prouvé qu'il est, c'est un combattant archi complet. On en reviendra dessus avec Nassim, mais tu sais, c'est un mec, il est déjà au top niveau, il est déjà très fort. Mais il a l'air de continuer à s'améliorer, de continuer à prendre de l'expérience, continuer, tu sais, à aiguiser certains compartiments de son jeu. Donc ça, ça fait vraiment très peur à cet âge-là. J'ai envie de voir ce que ça donne à 30 ans, moi. pressé de voir le prototype à 30 ans. Et juste voilà, maintenant je vais répondre à ta question, hein, c'est simple. Je pense que si on prend tous les aspects techniques du combattant MMA aujourd'hui, si on prend ce qu'il a déjà fait pour l'instant en carrière, double champ, il a failli être triple champ, il s'est battu contre un mec qui faisait, je sais pas moi, plus de 85 kilos le jour du combat. C'était un combat quand même serré malgré tout. il était pas loin, l'autre. Bon, il a voilà, une petite victoire, tu vois, sans trop le mettre en danger. Je pense qu'on peut dire aujourd'hui, c'est le combattant numéro 1, Saladin Parnasse. Juste,
FR,
bien sûr, FR, là, on parle FR. Je pense qu'aujourd'hui, ouais, c'est pas trop s'avancer que de dire ça, je pense. Direct derrière, pour moi, viennent s'ajouter des combattants comme Benoît Saint-Denis, Cyril Gane, et peut-être aussi, si on fait un petit top, Nassour aussi. Voilà, pour moi aujourd'hui.
Ok, très bien. Donc, c'est à noter qu'ils sont à l'UFC.
Voilà.
Nassim ?
Écoute, c'est simple. Moi, ça fait un moment que je vois Salah évoluer. Et comme tu le disais, Karl, c'est vrai que j'ai l'impression que déjà qu'il est dans le top level mondial depuis quelques années, il ne faut pas se mentir, j'ai l'impression que fight après fight, il est encore meilleur.
Inquiétant.
Hier, je vais te dire un truc. Moi, j'ai combattu à Paris. Quand tu habites à Paname ou que tu n'es pas loin de où tu vas combattre, c'est une sensation bizarre parce que tu as l'impression que tu vas à l'entraînement. Quoi. Gros, lui, je l'ai croisé quand il est arrivé à l'aréna hier. Concentré, tu vois qu'il est là, il a le truc d'un grand champion, tu vois, il a ce truc là et ses perfs, voilà, elle parle d'elle-même, tu vois, c'est que le gars il a failli devenir triple champ malgré cette défaite. J'ai même pas envie, tu vois, de considérer ça comme une défaite parce que j'ai l'impression que en plus de prendre de la maturité dans la cage, il a de la maturité dans la vie parce que on l'avait tout de suite entendu le soir de Bartos. C'était des mots posés, oui, bon, bah, c'est une défaite, c'est comme ça. Il l'a accepté, mais ce n'était pas une défaite où tu te fais éclater la tête. Toi. C'est une défaite sur un gros challenge pour être triple champ dans une catégorie qui est deux fois, qui est à deux catégories au-dessus de celle dans laquelle tu as démarré, tu vois. Et clairement, pareil, je le mets numéro 1, pound for pound, en clairement. Français. Et en plus, tu vois, j'ai déjà tourné avec, je sais à quel point il est chaud. J'ai déjà pris la jambe.
Et
autre chose, moi je vais vous dire, hein, la fédération d'athlétisme, les gars, si vous avez besoin de mecs pour le 400 mètres aux Jeux Olympiques qui arrivent à Paris, tout ça, et que c'est bien payé, appelez-le parce qu'on le voit aussi à la piste. Hein. Cardio de fou.
Ouais.
J'ai goûté
avec eux.
Cardio de malade, il cogne de plus en plus fort. Ah. Il a un débit de fou. Les gars, Salah numéro 1. Et c'est vrai, comme tu disais tout à l'heure, il y en a quelques-uns après qui sont très bons aussi. Benoît Saint-Denis, Nassour Dine. Moi, je mets Nassour Dine direct après parce que Nassour...
Il est chaud, Nassour Dine.
Nassour, on le voit pas forcément dans la cage parce qu'il prend des gars bien chauds aussi à l'UFC. Mais il est vraiment très, très chaud.
Franchement, tu dis on le voit pas forcément. Mais en vrai, si, on le voit. Franchement, si tu connais... Aujourd'hui, si tu connais un peu les sports de striking, genre boxe, pied-point, si tu connais un peu le sport de combat en général, tu vois qu'il est quand même au-dessus de Nassour Dine. Techniquement, il est vraiment au-dessus quand même. Dans son striking, son déplacement, son coup d'œil, tu vois qu'il y a quelque chose quand même. Tu vois, on va dire, toi, c'est encore un niveau au-dessus, tu tournes avec des gens, tu vois, tu peux direct avoir une comparaison, tu as quelque chose de concret. Mais même nous, juste devant l'écran, regarder, tu sens quand même qu'il y a quelque chose en plus. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais.
C'est au-dessus. Hein.
D'ailleurs, au-dessus. Il était là hier soir en plus. Ouais.
Ouais, exactement, dans les bureaux d'RMC. Moi, pour revenir, pour donner mon avis et faire rebond écho à ce que vous avez dit, ce qui m'a beaucoup impressionné, surtout, c'est le moment auquel il a réussi à placer ce finish-là. Parce qu'on sait que c'est un incontournable. Hein, de Saladin Parnasse, ceux qui le regardent boxer, ceux qui le regardent combattre. Setup des kicks avec des low kicks, ensuite jambes arrière et ensuite ça remonte. Ça, c'est un incontournable. On l'avait jamais vu. On l'avait vu souvent mettre des knockdown avec cette équipe là, que ce soit pour des Torres, des Rajewski ou autres, mais on l'avait jamais vu éteindre la lumière comme ça de la sorte, surtout aussitôt. C'est à dire que à chaque fois il avait besoin d'un round ou deux pour setup cette jambe arrière.
Il mettait pas trop les jambes sur le premier round,
exactement un round ou deux pour setup, juste des low kicks, et après au troisième ça commence à passer, bam, il commence à un peu éteindre la lumière. Là, le fait qu'il ait réussi à éteindre la lumière d'un coup et stratégiquement imposer justement sa stratégie, voilà, pour faire la répétition si tôt dans le combat et que ça touche et que ça marque, pour moi c'est, tu vois, là c'est la marque des plus grands.
Il était trop à l'aise,
c'est la marque des plus grands,
ouais.
Et c'est tous les combattants français devraient s'inspirer de ça. C'est ça qui est fort, parce que c'est peut-être ça aussi qui a manqué. On fera la transition plus tard, et peut-être à Morgan en termes de stratégie, parce qu'on voit que Morgan, il avait toutes les armes pour prendre le combat. On voit qu'il a le niveau UFC de loin, de très très loin. C'est le très très haut niveau Morgan, mais c'est peut-être là où ça a pêché. Moi, tu disais ?
Pour revenir sur le fait de dire que c'est un incontournable, ce qu'il a fait Saladin, on peut généraliser, hein, c'est un incontournable dans le MMA. Tous les grands champions mettent ça en œuvre, ont déjà mis ça en œuvre dans un de leurs combats en MMA. Je tiens quand même juste à faire rapidement, pour citer deux, trois noms, John Jones face à Cormier, comment il s'appelle, Headshot Dead,
Leon Edwards face à Kamaru.
C'est un incontournable du MMA aujourd'hui. Islam, les grands champions l'impliquent.
Islam sur Volka,
c'est un incontournable, les grands champions l'appliquent.
Saladin fait partie de cette lignée-là,
exactement. Ouais. Et c'est important de souligner ça, c'est que Saladin fait partie aujourd'hui dans le monde, parce qu'on a parlé, voilà, pour nous c'est le meilleur FR en ce moment même, mais si tu regardes dans le MMA monde, faudrait voir d'ailleurs comment il est classé aujourd'hui.
Qui peut le bousculer.
À 70, à 66, il est quand même dans le très haut niveau mondial.
En fait, c'est simple. Moi, j'ai une chose simple. On peut dire ce qu'on veut de Saladin. Pour moi, que ce soit là et là, c'est là où ça va faire. C'est un peu mon hot take qui fait beaucoup parler les gens. Ça va faire parler, je pense, que ce soit dans toutes les catégories dans lesquelles il concourt au monde, personne ne travaille plus que lui.
C'est un féru de travail.
Au monde, personne ne travaille plus que Saladin. C'est ce que j'ai pu observer, oui. Vu le temps que je passe à la, que j'ai pu passer à la hache, que j'ai pu les échos que j'ai pu avoir. C'est super impressionnant. Tu te dis, et là, je fais encore écho à ce que j'ai dit, je vous renvoie à l'interview qu'Amin Mohamed a fait pour RMC avec Hatch et autres. Hatch l'a dit. Je le doute, et il en a vu passer Hatch. Donc, c'est quelqu'un du milieu qui a de l'expérience. Je doute que lorsque tu sois à un certain niveau, donc peut-être champion UFC, que tu touches certains cachets, tu t'entraînes aussi dur que Saladin aujourd'hui. Et je pense que là, ça s'est vu. Il sourit. Pour lui, c'est de l'amusement pour lui. Il sourit pendant que son adversaire se veut menaçant, lui se veut très amusé et performé. Donc, je pense que vous pensez.
Non, mais clairement, c'est un féru de travail, c'est un acharné, il mérite tout ce qui lui arrive.
Clairement. Ouais.
Quand tu travailles comme ça, il n'y a pas de secret, hein, c'est largement mérité. J'aimerais quand même arriver sur un point qui fâche. Après le combat, il y a eu ce fameux discours de Hatch et Saladin, qui ont subtilement amené le sujet, enfin, RMC a subtilement amené le sujet, quelle serait la suite probablement après le KSW pour Saladin. Et voilà, on a bien compris que le facteur majeur qui allait faire en sorte de prendre une décision pour le clan Parnasse, ce serait voilà, le cachet à l'argent, ils l'ont dit, ils ne s'en cachent pas. Et ils ont raison d'être transparents, il n'y a pas de honte, c'est normal. On voit aujourd'hui que c'est pas forcément l'UFC dans les plans du clan Parnasse. Et je pense, couplé avec le fait que c'est un des meilleurs, si ce n'est le meilleur français, et qu'il a un potentiel illimité, je pense que c'est ça en fait qui frustre les gens. C'est qu'ils se disent, on a enfin un combattant générationnel comme Saladin Parnasse, et il y a quand même des chances qu'on le voit pas forcément à l'UFC. Ou en tout cas, pas de si tôt. Parce qu'avant, c'est le cachet. Et après, peut-être la gloire d'être numéro un jour à l'UFC. Mais je pense que c'est ça aujourd'hui qui frustre beaucoup, beaucoup de gens, beaucoup de fans du MMAFR.
Vous êtes frustré de cette décision-là ?
Non. Mais moi, après, j'ai pas le même avis parce que je suis. Parce que il a raison. L'oseille avant tout. Et je veux pas te mentir. Moi, du côté combattant, des fois, tu le vois, tu vas aller dans des grosses orgas, c'est bien, c'est prestigieux, c'est cool, mais t'es pas autant respecté qu'ailleurs et le respect, il passe par l'argent.
Moi, je ne dirais pas que je suis frustré, en tout cas pas maintenant, mais je pense que je le serais si vraiment il arrête sa carrière dans je ne sais pas combien d'années, on verra, sans être passé au moins une fois par l'UFC. Tu vois. Peut-être que là, je serais frustré. J'étais par exemple plus frustré pour Doumbé, qui n'était pas y allé à 30 ans, tu vois, que là, Saladin, 25, 26 ans, je ne sais pas il a quel âge exactement, ne pas y aller maintenant, ce n'est pas frustrant pour l'instant.
Ça là, je crois, depuis qu'il a 21 ans, ou 22 ans, je crois, depuis qu'il a 22 ans, les gens, l'UFC, ils cherchent à l'avoir.
C'est ça le truc.
Déjà.
Entre guillemets.
Mais les gars, si, on va faire un plan, on va faire des calculs, tu vois, on va faire un cours de mathématiques là tout de suite, les gars. Si à 22 ans, il avait signé à l'UFC, tu vois, il aurait pris des 10 plus 10. Bon. Il aurait perdu combien d'argent qu'il n'aurait pas fait au KSW
depuis ces trois dernières années. Wow, le manque à gagner.
Je sais pas combien de milliers d'argent, combien de milliers d'euros ne seraient pas rentrés, mais moi, à sa place, je me serais dit, ah ouais, Tu vois, là, tu fais le point à sa place, tu dis oui, j'ai fait le bon choix. J'aurais pu faire l'UFC et prendre moins, beaucoup moins, peut-être le quart de ce que j'ai pris actuellement, ou être au KSW, respecter, surtout ça, c'est important le respect, et prendre de l'argent. Et qu'est-ce qui fonctionne là ? Dans notre vie actuellement, les gars, 2024, le nerf de la guerre, c'est l'argent, point.
C'est ça. Et surtout, les gens disent, là, pour refaire quoi ce que tu as dit, Karl, c'est vrai que moi, on va dire, je serais, entre guillemets, je ferais partie de la catégorie des frustrés si d'ici 10 ans, l'UFC représente toujours ce prestige unique qui distance les autres organisations et qu'il n'y est pas allé. Mais pour le coup, moi, j'ai des doutes parce qu'avec ce qu'est en train de mettre en place le PFL, ce qu'est en train de mettre en place, on va dire que le MMA, pour moi, d'ici 15 ans, je pense, hein, ça ressemblera un peu plus à la boxe anglaise qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y aura plus d'unification de ceinture, plus de cross-fédérationnel potentiellement. Je doute que d'ici 15... Tu vois, pour moi, l'UFC, je ne sais pas s'ils vont rester dans leur bulle longtemps. Après, c'est vrai qu'ils ont des gros investisseurs. Mais je serais frustré si jamais ça reste, encore une fois, aujourd'hui, tu as la ceinture UFC, tu es reconnu comme étant le meilleur undisputed, alors que tu n'es pas undisputed parce que tu n'as pas pour moi la ceinture du Bellator, tu n'as pas la ceinture du PFL, tu n'es pas super champion, tu n'as pas la ceinture du ONE. Pour moi, tu n'es pas undisputed comme tu pourrais l'être en boxe anglaise. C'est vrai que le schéma est différent, mais pour moi, je serais frustré de ça. Je serais frustré de ça. Si jamais ça reste en gros cette entité numéro une inégalée. Mais d'ici 10 ans, 15 ans, je pense que les autres organisations vont monter en prestige avec l'argent qui est impliqué dedans, avec les athlètes qui vont mettre, avec la compétition qui va se créer dans ces organisations-là grâce aux fonds qui aura été injectés.
C'est sûr.
Et c'est là que je me dis, pour l'instant, je ne suis pas du tout frustré parce qu'on est aux prémices. Il a 26 ans, il choisit. Ça se trouve, il va choisir un chemin. Moi, je lui conseillerais, on verra lequel vous allez conseiller, vous. Mais moi, je conseillerais d'aller vers les États-Unis, d'aller vers PFL, Bellator, essayer de grappiller ce statut de super champion, unifié, d'avoir plus... T'imagines, vous imaginez, deux ceintures du KSW, une ceinture du PFL, une ceinture du Bellator. Là, au bout d'un moment, tu te dis, ah, c'est peut-être l'UFC qui manque, en gros, qui perd, qui a du manque à gagner. Le mec, il ne parle pas, il ne crée pas son stock, sa valeur marchande avec son trash talk, il le crée avec ses performances. Et là, au bout d'un moment, tu peux te dire, je sais pas, en NFL, Tom Brady, c'est pas un trash talker, mais avec toutes les performances qu'il fait, tu te dis au bout d'un moment, ah, si t'as la NFL et tu recrutes pas un mec comme ça, c'est bizarre. Ben là, c'est pareil pour moi. Donc, je sais pas, pour vous, ce serait quoi la destination idéale, maintenant, parce que là, vu que Karl a posé la question, pour un Saladin Parnasse, rester au KSW, aller à l'UFC ou aller au PFL, Bellator, en prenant en compte le compartiment financier, le compartiment respect, le compartiment branding.
Pour moi, j'ai pas envie de m'avancer, je suis pas tu vois, devant ou quoi, mais je pense qu'on peut écarter l'UFC de ses plans. Hein. J'ai pas l'impression que pour l'instant, à son âge, il va y aller. Par contre, c'est sûr que je pense que ça va être une grosse décision entre une autre grosse orga américaine, PFL, pour pas citer, on va pas jouer à faire les mystérieux. Ça sera, je pense, ou PFL ou il va rester au KSW. Mais s'il reste au KSW, ça sera clairement, je pense, la star, la grande star du KSW. Et tout sera autour de lui. Et il faudra, je pense, allonger un très, très gros billet,
très gros billet
dans le contrat. Et je pense que ça sera vraiment la star incontestée du KSW s'il y reste. Par contre, ça se trouve que le PFL, ils vont mettre un truc. Le KSW ne pourra pas suivre sur la table. Et là, je pense qu'il ira au PFL, que ce soit pour les tournois à 1 million ou juste tout simplement pour prendre la ceinture et régner sur le PFL dans une ou plusieurs catégories. Ça, c'est... De toute façon, quand tu as ce talent, quand tu as ce niveau, quand tu enchaînes des victoires comme ça, de toute façon, tu as un levier, hein, la porte elle est grande ouverte. La porte elle est grande ouverte pour... Il y a plusieurs chemins. Il y a plusieurs chemins qui s'offrent à toi. À toi et ton clan de voir ce qui est le mieux pour toi. Voilà.
Nassim, la décision idéale pour toi ?
La décision idéale pour moi ? Moi, je vais peut-être choquer, mais je pense qu'il va rester au KSW.
Là, on parle français, tu vois. Là, j'aime bien.
Je vous dis pourquoi ? Parce que même s'il part au PFL et au Bellator, il va gagner plus que s'il reste au KSW ? Pas forcément. En plus, il aura quoi ? Il aura tout un chemin à refaire. Moi, je pense qu'il y a potentiellement un autre chemin qu'on a peut-être oublié, c'est que le KSW peut devenir une grosse organisation mondiale.
Merci. Ça, t'as dit exact. Pour info, il n'a pas vu le podcast que j'ai fait avec Pugila. Bah, pour info, il ne l'a pas vu. Mais
on se comprend.
Il est dans le business, on se comprend.
Moi, je pense que vraiment, je vais te dire le truc. Le truc que je vois bien arriver. Déjà, l'entrée du KSW à Paris, je le retiens encore une fois, énorme. Magnifique ce qu'ils ont fait. Ça, c'est digne du gros organe mondial. Si eux, demain, on leur permet de faire ce genre d'orga aux USA, à droite, à gauche dans le monde, ils éteignent tout le monde.
T'es au courant que tu vas fâcher beaucoup de gens là en disant ça.
Bon, c'est pas mon problème. Il y a mes DM qui sont ouverts si vous avez des soucis. Merci, BLCHMMA sur Insta. Regarde, je te dis vraiment, c'était une dinguerie hier. Tu leur donnes les mêmes moyens d'organiser à droite, à gauche, ouais. Je te jure qu'ils font du show.
C'est
incroyable. C'est... Moi, je pense que eux, les deux orgas en Europe qu'on devrait surveiller, c'est le KSW et l'Octagone. Le KSW et l'Octagone, ça fait que de monter. Et c'est de l'organisation, c'est du show. Et c'est des cartes de malade. T'as du MMA. Moi, ce que j'aime bien, et je vais le dire maintenant parce que je l'ai dit tout à l'heure en off, c'est que je vais peut-être re-signer Hexagone. Et c'est bien parce qu'ils sont en ouverture avec le KSW. Moi, hier, le KSW, ça m'a conquis. Tu vois. Et ça veut dire, je te le dis, franchement, ils respectent, ils te mettent bien, le show est présent, tu vois, de A à Z. Ça, j'ai apprécié de fou. Donc, je pense que le chemin à faire, c'est que le KSW devienne une super orga mondiale,
ouais.
Et qu'ils aient déjà leur superstar et que ça va être ça là, tu vois.
C'est ça.
Ils ont un gars qui payait 2 millions, là, je ne sais plus comment il s'appelait.
Mais je pensais à ça, ouais, c'est Khalid.
Voilà.
Je pense que Khalid,
gros, ça là, ça va être ça dans 2 ans. Exact. Ça va prendre des cachets à 2 millions, être bien. Et voilà, si l'orga, elle devient la grosse orga qu'elle risque de devenir, parce que vu ce qu'elle a fait hier à Paris, je pense que mondialement, elle peut faire des trucs de fou. Et ben, ça va devenir une des big leagues.
Fait important, tu as mentionné. Dans quel autre orga Salah a-t-il un aussi gros levier que dans le KSW, sachant que est-ce que vous pensez vraiment que Martin va laisser son double champion se barrer comme ça?
Non.
En tout cas, s'il aura tout essayé, je pense. Hein. Même si Salah n'y part, au moins il aura tout essayé. C'est sûr qu'il va pas négliger. Il va tout faire pour le garder. Ça, c'est sûr. Il va faire tout ce qu'il a en ses moyens, voilà, pour le faire. Hein. Maintenant.
Mais là, je vais.
Maintenant, ça se trouve le PFL, ils sont vraiment chauds aussi de le prendre. Et ça va être dur, peut-être le KSW, ils vont peut-être avoir du mal à matcher ce que va proposer le PFL, hein, on ne sait pas aussi. Hein.
Je sais pas.
Ouais, mais moi, je vais te dire un autre truc, tu vois. Je vais faire un exemple qui va être peut-être parlant. Tu vois, quand tu vas parler de marque,
ouais.
Tu vas dire KSW, tu l'associes à la marque Saladin Parnasse, parce que c'est une marque.
Tout à fait.
Saladin Parnasse.
Tout à fait.
Maintenant, tu vas prendre un autre truc. Le groupe LVMH, ils ont des grosses marques. Ils ont quoi, Louis Vuitton?
Exactement.
Ils ont quoi d'autre déjà?
Mouette et Chandon.
Mouette et Chandon, truc.
Voilà. Et en soi, tu vas voir NSI dans un coin d'une rue, une pub. Tu vas voir un autre truc Louis Vuitton. Dans ta tête, tu vas penser LVMH. Pour moi, c'est ça. Saladin Parnasse, KSW, ça va ensemble. Ça match, ça va rester ensemble et ça va s'agrandir, ça va devenir un big groupe.
Ils peuvent, du coup, là, et là, c'est exactement quoi. Il n'a pas vu le podcast que j'ai avec lui là. Ils peuvent utiliser Saladin Parnasse comme vitrine à l'international pour augmenter et même attirer les talents, j'ai envie de te dire.
Bien sûr. Bien sûr. Là, ce qu'ils ont fait hier en France, tu crois que les fighters français, ils n'ont pas vu?
Toi, le premier.
Moi, je suis le premier. Moi, je suis le premier. Dans ma tête, je vais te dire un truc. Le KSW, oh, Pologne, oh, chargé, oh, Bourbier. Tu vois, c'était ça. Ouais. J'ai vu KSW à Paris, le show. J'ai dit, ouais, c'est bien. Hein.
Yeah.
C'est pas mal. C'est pas mal. Hein.
Un rebranding à faire comme le Japon d'après-guerre.
Voilà.
C'est-à-dire que là, exactement, le KSW en Europe, aux États-Unis. Et là, par contre, il y a un élément critique, c'est. Si les fonds arrivent à tenir, s'ils ont entre guillemets.
Ils tuent tout le monde.
Voilà, ils ont les investissements qui tiennent, ça peut être dangereux.
C'est gros, ça peut être dangereux, gros.
Ça peut être dangereux.
Ça va être un truc de fou.
Bah, là, dites-nous en commentaire, là, on va faire la transition. Mais je sais que ça dérange, les gars. ça dérange, mais soyez pas choqués.
Moi, je dis KSW avec les mêmes fonds que l'UFC, ils font mieux. Point.
En tout cas, ils font mieux que l'UFC. Tirez-moi dessus, je
moi, je vous dis, tirez-moi dessus. Là, des dernières orgas que j'ai vues à Paris.
Bah ouais, parce que toi, t'as été à toutes les UFC, Bellator.
Bellator. Bellator, ça te reçoit bien.
Ça, ouais, on est bien accueilli,
Bellator. Mais maintenant, mettez-nous un KSW à Bercy, je pense qu'ils font pareil. Voire mieux, peut-être.
Les gars, je sais que les gens, ils se moquent, KSW, XY, etc. On sait pas c'est quel organe, etc. Il n'y a que des dopés, il y a la FLD, etc.
J'avais la FLD hier. Ils ont contrôlé.
Les gars, moi, ce que je dis personnellement, ce qu'on pense, c'est qu'au potentiel, ne soyez pas choqués si Saladin reste au KSW.
Ouais, ne soyez pas choqués. Personnellement, je te dis, et je le redis maintenant, je suis intimement convaincu qu'il va rester au KSW. Parce que pourquoi partir de là-bas ? Tu sais, c'est comme si t'es là, t'es assis, t'es bien, t'es dans une Lamborghini,
bien.
Tu vois, t'es yam. Et on te dit, ouais, il va falloir laisser la place pour aller dans...
206.
Non, pas dans, je sais pas, dans un Q7. Alors que dans Lamborghini, t'es bien. Tu vois ? Lamborghini, t'es comme ça. T'es 280 sur l'autoroute. Et là, tu passes au Q7, t'es en familial. Les gosses qui crient derrière.
Tu dois. C'est compliqué. Aïe, l'UFC avec leur 10+10. Aïe. 20 plus 20. C'est ça aussi. Ça aussi, Dana. Dana, faut cracher. Dana, faut allonger.
Dana, il n'aura pas le choix dans quelques années. Ça sera plus pareil.
Dana, il n'aura pas le choix. Mais là, ça devient intéressant parce qu'on voit que si on fait la transition avec l'orga de tonton Dana, on voit qu'il y a Morgan hier. Déjà, Nora, très belle performance à saluer.
Tu vois, Nora, je suis content pour rien, Nora, parce que la plupart des gens, ils étaient en mode son adversaire, c'était Dixon. Bon, elle a changé de nom, elle s'appelle Mullens maintenant, parce qu'elle s'est mariée entre temps, je crois. Mm-hmm. Ouais, elle est forte, et c'est vrai qu'elle est forte. Et tout le monde la voyait perdante et tout. Et moi, je la voyais à l'entraînement charbonner. Ouais, je vais la fumer. Je vais l'éteindre. Elle a eu plein de petites blessures de merde pendant le camp. Et au final, ce qu'elle lui fait hier, genou foie, high kick dans les dents, violent, re-high kick dans les
dents.
Mais
tu sais que...
Impressionnant de fou, la high kick.
Mais tu sais que c'est malveillant, ce qu'elle lui a fait. Parce que elle lui a mis le genou, c'était déjà fini. C'est bon, elle était en train de tomber, l'autre et tout. Elle s'est tournée, elle commence à aller vers la cage comme ça. Mais c'est malveillant de finir comme ça, en arrière, lui envoyer dans l'angle mort head kick comme ça.
C'est ce qu'on aime.
Super necessary.
C'était super nécessaire. Super nécessaire. Ouais, super nécessaire. On aime cet esprit Masvidal. On aura foucard des.
Mais ouais, beaucoup de malveillance.
Beaucoup de malveillance. Ce qu'elle a fait. C'était
bien parce que t'as pas l'habitude de voir autant de malveillance.
Elle est violente. Hein. Elle est archi violente, même à l'entraînement. T'as pas envie de tourner avec
elle. Des anecdotes, Nassim.
Elle cogne. Hein.
Et oui, parce que Nassim s'entraîne avec ces athlètes-là aussi. Et du coup, pour faire la transition, parce que là, on est content que ça a performé. Et on était sur une presque top. Il a eu la performance of the night quand même.
Enfin, il a eu le combat de la soirée.
Combat de la soirée, pardon.
C'est ça.
Combat de la soirée. Fight of the night. Rick Rack, qu'est-ce que vous avez pensé du combat de Morgan qui, pour moi, je vous dis, il a le potentiel d'être dans le top de cette catégorie. Et là, je sais que je vais me faire tirer dessus. Les gars, vous pouvez me tirer dessus tout de suite. Même screener, mettez dans vos stories, moquez-vous. Moi, je pense que Morgan peut aller chercher cette ceinture. Morgan a le potentiel d'aller chercher cette ceinture de l'UFC. Maintenant. Quel est votre avis sur cette performance-là déjà, et quelles sont vos corrections potentiellement ? Pas vos corrections, mais qu'est-ce que vous avez noté qui aurait peut-être porté défaut à sa victoire ?
Déjà, on va rappeler la scorecard des juges, la carte des juges. Donc, il y a deux juges qui ont vu 29-28 pour Mariscal. Donc ça, déjà, c'est une première chose. Donc, un juge, il voit round 1, Mariscal, round 2, Morgan, round 3, Mariscal.
Okay.
Donc, deux juges voient ça.
Très bien.
Et par contre, l'autre juge, il y a un dernier juge, il voit... 3 rounds à 0 pour Morgan. Donc déjà, il y a un truc qu'on peut se dire, c'est que je pense que tout le monde ici est unanime pour dire que Morgan, il a le round 2. Ça, il n'y a pas de souci.
Nettement.
Mais c'est sur le round 1 et 3 que là, même chez les juges, il y a une discorde. C'est-à-dire que round 1 et 3, il y a deux juges qui voient pour Mariscal et il y en a un, il voit pour Morgan. Donc, tu vois, c'est là où c'est un peu tricky. Le combat, on l'a tous vu, il n'est pas facile à scorer. Sur le round 1 et 3. Le round 2, il n'y a pas de débat, je pense. À part vous me dites, mais pour moi, il est pour moi.
Ouais,
c'est sur le round 1 et 3 que c'est un peu serré. Ça va dépendre du point de vue de comment tu juges un combat, en fait. Ça va plus dépendre de ça. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Nassim ? Déjà, tu vois quoi comme score et c'est quoi tes justifications ?
Moi, j'aurais mis serré 29-28 côté Morgan. En fait, je sais pourquoi ils ont mis Mariscal. C'est la fin du troisième round où il y a pas mal de situations de scramble où Morgan est au-dessus, puis ensuite il y a du scramble, il repasse en dessous, puis il repasse au-dessus, puis il repasse en dessous. Et l'autre, il finit fort la fin du troisième round. Et ça, c'est un truc qu'on dit souvent, il faut finir fort les rounds parce que c'est ce qui marque les esprits avant de la notation des juges.
C'est ça.
Moi, je pense que c'est ça qui a fait pencher pour les deux juges dans le scoring de mettre le round 3 pour Mariscal, alors que le début du round 3, il est bien maîtrisé de la part de Morgan, belle gestion, même milieu de round, quand ça scramble, il n'y a pas de danger. Hein. Toi, tu m'en parlais tout à l'heure en off, 0-0 danger pour Morgan, même quand ça scramble, qu'il passe en dessous, que ça repasse au-dessus. Et pour ceux qui ne savent pas, scramble, c'est le fait de réinverser les situations, tout ça, en lutte et en grappling. Et du coup, moi, je vois premier round Mariscal, parce qu'il rentre plus fort dans le fight.
Ouais, il met beaucoup de volume et tout.
Beaucoup de volume, c'est ça, même sur les phases de lutte, il a réussi à take down et il réussit à que je contrôle. Deuxième, je mets Morgan, unanime là. Troisième, je mets Morgan devant, mais c'est vrai qu'il est serré.
Bah, c'est serré, et moi je vois le même scoring que toi, et c'est dommage parce que Morgan, en fait, son style, le style qu'il a, pour moi, il était, dans l'ensemble, il était plus dominant, mais que c'était peut-être pas propice, son style de combat, au scoring, notamment, qui est effectué en MMA et à l'UFC. Parce que quand tu vas le voir comme ça, des magnifiques head movements, où c'est des touches, mais des petites tapotes qui se prend, mais il esquive, en boxe anglaise, ça compte pas. Changement de niveau, hop là, amener au sol, tout ça, ça c'est des magnifiques séquences qui pour moi vont aller dans le sens de Morgan, mais dans la feuille des juges, ils vont noter, Mariscal l'a touché.
En tout cas, deux juges.
Et ça, j'aime pas. C'est là que je me dis, j'ai encore énormément à apprendre du scoring en MMA. Quand je vois ce genre de combat-là, je me dis, ouais, le scoring en MMA, c'est spécial.
Ouais, moi j'ai envie qu'on ait ce débat-là un jour, je vais ramener Johnny fraîcher.
Exactement, ouais, j'aimerais bien.
Parce
ça.
Parce que c'est vrai que, tu sais, en général, même tous sur les fights de Morgan, tout ça, même quand il y avait eu Vucinic et tout, on attendait un petit peu, on regardait le fight et on analysait un peu genre, comment se fait qu'il y a eu cette. Ce n'est pas la première fois où il y a une décision un peu serrée.
Non, surtout avec Morgan.
Où le pauvre, il se fait banane. Là, il faut qu'on revoie le fight, mais c'est vrai qu'à chaud. Le pauvre, tu vois.
C'est frustrant parce que je vais vous dire. Moi, qu'est-ce que j'ai ressenti en voyant ce combat ? J'ai ressenti un Morgan très à l'aise, déjà, tout d'abord, pour commencer, comme très souvent d'ailleurs dans ces combats. Très, très à l'aise. Je l'ai trouvé au-dessus dans le striking, donc debout. Je le trouvais pas du tout en danger. Donc, je le trouvais beaucoup plus à l'aise, bien en contre, solide, belles esquives, comme on a dit, beau changement de niveau à un moment, round 2, incroyable, magnifique. Mais son adversaire, il avait beaucoup le centre de l'octogone. Son adversaire, il était un peu comme... C'était un peu, tu vois... C'est pas forcément le combattant très talentueux, mais tu vois, il a un fort mental, il fait qu'avancer.
Il va chercher les points.
Il va chercher les points. Il a envoyé beaucoup de volume, même si ça touchait pas bien, même si ça faisait pas mal, même si ça mettait pas Morgan en danger. Tu vois, il marquait, il grappillait des petits points par-ci, par-là. Et en fait, ce qui se passe pour moi, c'est qu'au final, Morgan, il se fait avoir sur le jeu des points des juges. Dans un combat où il est, je trouve, meilleur, il a plus de talent que son adversaire, il a un plus gros niveau dans pratiquement tous les compartiments, en tout cas en striking sûr et certain. Et tu vois, au final, il perd en fait sur simplement une gestion pas optimale du combat.
Bah, en fait, il est tombé face à un champion du monde d'IMAF qui était très académique et qui est venu pour gagner un combat de MMA.
Ouais.
C'est tout. C'est ouais. tout. C'est ça. Et c'est ça qui a apporté café des fois à Morgan. Et moi, ça m'énerve parce que regarde, tu vois, le style, on va pas se mentir, on voit qu'il plaît à Dana. Ouais, les bonus qu'il leur donne.
Bonus 50K, fight of the night.
Il a, enfin, même malgré cette défaite-là, c'est peut-être dommage en termes de carrière, surtout avec peut-être le palmarès qu'il a, mais à l'UFC, sa place n'est pas du tout en danger, Morgan. Non. Pourquoi ? Parce que c'est le client parfait. Dana le kiffe. L'UFC kiffe Morgan, kiffe les guerres qu'ils font. Tu peux comparer ça à d'autres combattants, peut-être à l'UFC qui sont français, qui peut-être ne se mettent pas forcément en danger, auxquels on attend qu'ils se mettent dans ces guerres-là. Lui, dès ses premiers combats, tu sais que c'est le bon client. Tu sais que Morgan, c'est le bon client. Et maintenant, va peut-être juste falloir ajuster pour être dans l'efficience et orienter victoire, win. C'est ça, orienter victoire. Même si c'est peut-être, alors que ça soit peut-être moins plaisant à voir, mais peut-être plus efficace. Parce que moi, Morgan, c'est, je te dis la vérité, dès que je sais que Morgan est combat, je me branche devant la télé et je regarde.
C'est ça, c'est ça. Et surtout, c'est son palmarès, il montre pas du tout, il est pas du tout, comment dire,
représentatif de son niveau.
Niveau. tu le regardes combattre, il est à l'aise. Il est à l'aise. En face, il a un client quand même et il est à l'aise dans le combat. C'est vraiment frustrant. C'est dommage.
Ouais. C'est dommage, hein, c'est dommage. Et tu sais quoi, moi, à la fin du fight, j'avais l'impression qu'il avait encore deux rounds à lui donner. Oh.
Je te jure. L'autre, l'autre, il n'en voulait plus de cette fumée-là. C'était... Non, franchement, c'est fort. Bah, bravo, en tout cas, Mariscal, hein, parce qu'il faut le faire, hein, faut le sortir. Les deux ont fait une guerre, une belle guerre. Bah, là, en fait, c'est simple, les gars, c'était du MMA de très haut niveau. Tu ne peux pas faire. Enfin, là, c'était du. les gens aiment bien dire ça. Hashtag, entre guillemets, niveau UFC. Bah, c'était ça. C'était du très haute intensité, précision, tu fais une erreur. On voit que les deux ont fait très peu d'erreurs. C'est-à-dire que si tu fais une erreur, là, tu te fais sécher.
Ouais.
C'était très, 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 très tendu le combat.
Ça cognait. Hein.
Ça cognait très, très dur.
Les deux, physique de fou.
Très gros physique. Malgré ça, si je peux en tirer du positif, je suis content qu'il soit passé par ce combat-là. Au moins, il a fait ce combat-là à l'UFC. C'est-à-dire qu'il a eu un combat où il l'a éteint. C'était un combat où ça va, sans trop de dégâts. Facile, entre guillemets.
Non, il faut le dire, facile. Hein.
Voilà, facile. Deuxième combat, il a fait sa guerre. Troisième combat, là, il va dérouler. Pour moi, il va dérouler.
Ça y est, là, il va prendre la vitesse.
Il va dérouler.
Il sera dans le truc. Il sera sur la route pour avancer. Ça.
Il a montré que tu peux lui mettre un client difficile. Il va te le chier comme il faut.
T'es fou.
Il va te le chier comme il faut. Donc maintenant, c'est un peu comme un... Pour moi, c'est... comment il s'appelle le Renoir, là, qui est de l'UFC, qui a gagné à 7 secondes. Cette seconde-là...
McKinney.
Voilà, McKinney. Au début, c'était un peu un profil comme ça, mais en fait, tu te rends compte que pas du tout, il a des fondamentaux beaucoup plus... Pour moi, Morgan, c'est un McKinney avec des fondamentaux beaucoup plus solides.
Ouais.
T'as regardé ? C'est-à-dire qu'en termes de divertissement pour le client UFC, pour les États-Unis, il a le style qu'il faut.
Ouais.
Et en termes de fondamentaux, pour sécuriser les positions, changer de niveau, en gros, aller chercher ces points-là, pour moi, c'est un McKinney version... largement plus évolué.
Franchement, c'est pas étonnant. Hein. Il a quand même un sacré vécu, il a quand même un sacré gros bagage d'expérience qu'il a pu acquérir avant l'UFC. Hein. C'est seulement son deuxième combat à l'UFC, mais il arrive avec un sacré bagage, avec des sacrées guerres. Nassim, il le répète tout le temps, regardez pas le palmarès, mais regardez les combats qui ont fait ce palmarès. Il a des grosses, grosses guerres à son actif. C'est et fou. Franchement, pour son âge aussi, il a moins que 30 ans. Bah, il a un sacré vécu et une sacrée expérience de combat.
Ouais,
sérieux. Il a une expérience de quasi-retraité du MMA, gros. Ouais. Il a fait je ne sais pas combien de combats.
C'est remarquable.
C'est incroyable.
Remarquable.
C'est vrai que je le dis souvent. Moi, je vous conseille d'aller voir les fights qu'il fait au Cage Warrior. Les fights qu'il a fait au Cage Warrior, ils étaient fous. Même contre celui contre Paul Hughes, où il se pète l'orbite.
Ouais, un truc de malade.
C'est une folie. Voilà.
C'est pour ça que je ne me fais pas de soucis pour lui à l'UFC. Hein.
Donc on lui souhaite le meilleur et on pense que le meilleur arrive pour lui.
Ouais, le meilleur est à venir. Franchement, le meilleur est à venir.
Il repart deux combats de bonus, je crois, c'est ça enfin, je sais
deux
pas,
combats, deux fois 50K.
Bravo.
Bravo. J'espère juste qu'il ne va pas se faire arracher sur.
C'est pour ça que la team Hatch, ils veulent s'expatrier aux États-Unis. Avoto, c'est exactement pour ça, Avoto. Hein.
Ah, tu vois, je peux comprendre que là.
Tu vas.
KSW en France.
Si t'as pas de bonus, tu touches le même tarif que dans certaines orgas amateurs à l'UFC. Hein. Donc, c'est ce qu'il a dit sur son podcast avec lui. C'est ça qui est compliqué. C'est ça qui est très compliqué.
Non, mais c'est vrai.
Ouais, c'est ça qui est très compliqué, ouais, les gars. Hein. Faut se rendre compte. Hein. Faut se rendre compte du coût d'une préparation, des gens que tu dois payer après.
Si tu payes pas le bonus,
t'es pas dans le positif,
mais en plus, à propos des coûts de préparation, Morgan, il est là-bas depuis deux semaines. Il est là-bas depuis deux semaines. Il y a un gars qui s'est entraîné, qui a été le sparring partner de Morgan.
Ouais.
Il l'a pris avec, tout frais payé, de la poche de Morgan, plus le coach, tout frais payé, deuxième coach, tout frais payé. Après, c'est normal, tu vois, c'est lui qui prend la décision d'aller deux semaines là-bas, de se mettre dans la bulle et tout. Donc oui, c'est un coup, les gars, c'est un coup.
Non, il y a la volonté de faire les choses bien, mais c'est pour ça qu'il va performer, parce qu'il a cette volonté de faire les choses bien.
C'est un mec qui est carré, de ouf.
Il était à ça, hein. Pour moi, je donne mon avis, pour moi, il a gagné le combat. Pour moi, il le prend de manière... Mais c'est pas un vol. Ça aurait pu... Tu l'as donné à Michael, c'est pas
un vol. Ça aurait même pu être une égalité. Hein,
voilà, exactement. Mais pour moi, là, il faut que je regarde. À chaud, c'était... yes, je pense qu'il a deux peu, mais il a fini sur le dos deux fois, je crois.
C'est ça, il finit dans les deux, tout à la fin. Troisième round, ouais, sur le dos, c'est peut-être ça, tu vois.
Maricel qui est sur un winning streak, je crois, a vaincu aussi ce mec-là, non ? Je crois, TP ? Ouais, je crois, c'est ça aussi.
Ouais.
Gros, ouais. Il voulait peut-être pas. Ouais.
Les gars, Dites-nous ce que vous pensez. Est-ce que pour vous, c'est du vol? Est-ce que pour vous, ça pouvait aller dans les deux sens? Quel est votre score? Dites-nous tout, les gars.
Exactement. Dites-nous tout ce que vous avez pensé du fight de Nora, du fight de Morgan. Et surtout, où ira Salah?
Où ira Salah?
Où ira Saladin Pernas? Quand tu l'as fait hier, je me suis dit, hey, ça passe trop bien ce truc.
C'est ça. Mettez-nous, seriez-vous choqué s'il reste au KSW? Répondez à cette question en commentaire, les gars. On veut votre avis. Seriez-vous choqué ou pour vous c'est normal, logique? Seriez-vous choqué? Voilà, je veux l'avis des abonnés des GOAT sur cette question-là. Seriez-vous choqué si Saladin Parnasse prolonge au KSW, sachant qu'il a les deux ceintures de deux catégories? Voilà, sur ce, je pense qu'on peut leur dire le mot de la fin. Abonnez-vous et peace, les GOAT.